RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec une star de Dordogne, une star de Bergerac. Il est là, le maître Yodu, toujours présent et qui va attaquer sa période d'affûtage. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
On appelle ça un doublé coupe championnat. Il a remporté le 5 km et le 10 km et de oui. Bergerac ce week-end, ça c'est beau.
Ça, c'est, ouais, c'est beau, à la maison en plus, à domicile.
Ah ouais.
Donc, non,
c'est
d'ailleurs content,
le titre, ouais. C'est le titre qu'on t'a mis pour YouTube. Hein. Tous ceux qui sont sur la chaîne RMC Running sur YouTube.
Vainqueur du 5 km de Bergerac.
Le palmarès de Yodu
ouais.
se résume non, à avoir là, gagné le 5 km
ah ouais,
de Bergerac.
Carrière, merci les gars.
Quelle horreur.
Bon, mais c'est déjà pas mal, écoute. Je suis prophète en mon pays, donc ouais. Tu vois, c'est déjà pas mal.
Mec, il a fait 2-9 au marathon, on lui met vainqueur du 5-4 Bergerac.
5 km de Bergerac. Ah ouais, le manque de respect, quoi. Bon, c'est pas grave.
Ça y est, on s'approche. Nous sommes à J-12. Et ouais, les gars, c'est la semaine prochaine.
Voilà,
le Schneider Electric Marathon de Paris. Ça paraît fou. Cette aventure a démarré il y a de nombreuses semaines. Et là, on s'approche. Notre team est bien présente. Vous allez le voir. On est avec Lucie, on est avec Mathieu, on est avec Hélène et avec Arnaud. On va prendre des nouvelles. Là, c'était vraiment la dernière sortie longue ce week-end. On va rentrer eh bien, dans la phase de repos, Johan, le repos pré-compétitif, ce qu'on appelle l'affûtage. Tout à fait.
Là, donc après ça avoir va devenir des lames de rasoir.
Et voilà. Après avoir débriefé la semaine, on va vous donner les bons conseils pour réussir l'affûtage, comment ne pas basculer dans le désentraînement, mais comment également reposer le corps et l'esprit, Johan, pour être à fond le jour J. Hein, c'est ça le but.
Exactement, ouais. C'est arriver frais et dispo, que ce soit musculairement et mentalement. Il faut avoir envie de bouffer les pavés parisiens dans 15 jours. Ouais.
Et voilà. Et puis après, à la fin, vous connaissez le rituel. On aura les réponses aux questions que vous vous posez grâce au maître Yodu. Il va répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Si vous en avez d'ici la fin de la prépa marathon, d'ailleurs, n'hésitez pas. Podcast RMC Running à gmail.com ou sur notre compte Instagram. C'est parti pour RMC Running. La team est là, bien présente. Lucie est avec moi en studio. Salut Lucie.
Hello.
Lucie, elle s'est envoyée la sortie longue ce matin. Donc les yeux sont petits. Elle sort d'un 21 km qu'elle a fait au pas de course parce qu'en plus, elle voulait être à l'heure pour le podcast.
Ouais.
C'est pour ça qu'elle est un peu KO. Mathieu est là également. Salut Mathieu.
Salut.
Et on salue également Hélène qui est à distance en direct de sa Normandie. Salut Hélène.
Bonjour à tous.
Et Arnaud est là lui aussi. Salut Arnaud.
Salut tout le monde. Salut l'équipe.
Alors, si vous nous suivez depuis le début de l'opération, vous le savez, il n'y a pas de réseau en Bretagne, donc il y a uniquement un lien sonore. Mais rassurez-vous, il est là. On va s'en sortir un jour.
C'est avec fou, ça.
Je suis en noir et blanc.
Il est en noir et blanc encore, c'est ça. Allons-y pour tous vos débriefs de la semaine. Vous le savez, j'attends une note sur 10 sur la fatigue, le plaisir, la difficulté de votre semaine. C'était la dernière semaine un peu chargée. Lucie, comment ça s'est passé? On va la terminer aujourd'hui, la semaine, hein, parce que c'est allé jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Ouais, parce que c'est vrai que sinon, j'ai pas fait les kilomètres que j'étais censée faire. J'étais pas très en forme là en fin de semaine.
Ouais.
Du coup, j'ai fait 20 km sur la semaine. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait la sortie longue ce matin pour me rattraper. Mais sinon, du coup, c'était très cool. Donc, en termes de difficulté, je vais dire 2. En termes de fatigue, pareil, 2, 3. Et par contre, plaisir, 8.
C'est bien passé ce matin, la sortie longue?
Ouais, ça va.
Bon,
ouais.
Tant mieux. Mathieu?
Écoute, je t'avoue que là, ça, vivement, le marathon, je te l'ai dit tout à l'heure.
T'en as ras-le-bol.
Oh, pas ras-le-bol, mais ouais. Là, non, c'est même pas ça, c'est que tu sais, là, on court, j'y vais plus par plaisir, là, j'y vais vraiment parce qu'il faut le faire. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller faire le marathon. C'est, depuis, tu vois, samedi, le deuxième bloc de 6 km, je sais pas, ça m'a...
Ouais.
J'en avais marre, je me suis dit, allez, on le fait pour le faire, mais dans le but
précis. C'est vraiment le moment précis. Vous aviez deux blocs de 6 km à l'heure marathon.
J'ai arrêté la récup de 30 et pour repartir, ouais, c'était compliqué. Ouais. En plus, j'ai pas mal bossé ce week-end, donc c'était en plus compliqué. Donc je sais pas si ça joue ou pas, mais là, j'ai envie d'y être. Ouais.
Bah, donne-moi tes notes,
alors,
c'est révélateur.
Note de...
Le plaisir.
Non, bah, 7-8 hein, en ce moment. Ouais, ouais, c'est bien parce qu'il fait beau.
Ouais.
T'as vu, le temps est magnifique ouais, en ce moment. Et puis au niveau de la fatigue, c'est toujours lié au boulot. Les séances, ça passe. Franchement, je les passe facilement.
Ouais.
Sans... Ça passe. Et le plaisir, la fatigue...
Et la difficulté.
Et la difficulté, non. Tout est passé.
Okay.
Tout passe dedans. Je me sens pas... dans le dur, mais c'est plus là j'ai envie d'y être. Ouais. Ça commence à être long. Ouais. Quand on arrive dans cette phase-là, de toute façon.
Ah, c'est la pire.
Voilà.
Enfin, on veut pas vous décourager, mais là, c'est vraiment pas les semaines agréables. Il y en a qui adorent, notamment Yoann Durand, pour nous en parler. Mais l'affûtage, ah ouais, c'est toujours une période particulière.
Non, mais tu passes. Je passe de 180 bornes à 120 et tu veux que je me plaigne ?
Non, ouais, c'est vrai. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Ouais. On peut voir ça comme ça, tout à fait.
Bah, vous êtes fous, hein.
Arnaud, alors, toi, tes notes sur 10 sur la semaine qui vient de s'écouler. 50 km et d'ailleurs, la semaine dernière.
Ouais, 50 km, donc on commence à être constant par rapport aux dernières semaines. Ça fait maintenant 6-7 semaines que je dois être à 50-60 km. Donc un petit peu comme Mathieu, fatigué, mais en même temps, j'ai hâte de voir si la préparation a vraiment servi. Et si j'ai les cannes pour aller affronter le marathon de Paris. Donc je suis toujours motivé, mais c'est vrai que j'ai une pointe de fatigue, quoi.
C'est quoi tes notes alors ? La fatigue, la difficulté, le plaisir ?
Plaisir, toujours à 10. Ouais. Niveau de difficulté, toute relative la semaine dernière, on va dire 7 ou 8. Et puis la dernière, la fatigue, elle est 5-6.
Ok, mais t'as raison, hein. On a hâte d'être au 13 avril pour voir si Yoann Durand est vraiment pertinent en termes de coaching, hein, parce que c'est là qu'on va juger, évidemment. S'il n'y a pas de RP pour tout le monde,
on va lui mettre la pression.
Il y a 4 athlètes, mais... Oui, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont rendre tout le matos qu'ils ont eu aussi.
Ça, c'est du coaching mental. Bravo, Yoann. Voilà, la pression commence à arriver.
Et les payseurs, il va falloir les payer. Ouais, on va voir.
Elle est en forme.
C'est bon ça. Hélène, ta semaine alors, comment ça s'est passé ?
Donc on a bien réduit le volume, puisque là je dois être entre 57 et 58 km. Ouais. Donc j'ai à peu près eu les mêmes séances, hein, que Mathieu, avec la sortie longue avec deux blocs, deux fois 6 km à Lyon Marathon, que j'ai passé en 4:31. Donc voilà, c'était pas facile, mais c'est passé.
Okay.
Niveau de fatigue, je dirais quand même 7, puisque j'ai une bonne pharyngite. Donc voilà, les poumons, c'est compliqué, le nez, c'est encore bien pris, mais comme il a dit Yoann la semaine dernière, vaut mieux maintenant que dans un peu plus de 10 jours. Donc là, c'est ce que je disais, je vais, voilà, les nids à microbes, je vais les éviter et je vais soigner tout ça. Et donc oui, un peu fatigué quand même, sinon plaisir toujours sur 8 sur 10. Un peu moins de doute, donc là pareil, vu que le volume diminue, je pense que voilà, je vais aussi me préparer un peu plus mentalement. Et sinon, ouais, difficulté, 6-7 quand même, parce que les séances sont passées, mais pas les allures, pas facile, quoi.
Pas les doigts dans le nez, quoi. Mais en tout cas, c'est fait et
voilà,
c'est une bonne chose de fait. Profitons d'Arnaud, parce qu'Arnaud va devoir nous quitter avant la fin de cet épisode. Arnaud, j'ai en détail d'ailleurs les séances que tu as réalisées la semaine dernière. Je vois un beau fractionné du 4x500, 4x200, 4x500. C'était le 27 mars, tu as fait ça sur la pause déj, j'imagine. Ça, c'était peut-être la séance la plus compliquée de la semaine, Arnaud ?
Ouais, la séance la plus compliquée et la partie du milieu de la séance de fractionné était la plus dure à tenir. Ouais, c'est là où j'avais la sensation d'être en fin de préparation.
Ouais. C'est sur les 200 mètres.
Sur les 200 mètres. Ouais, sur les 200 mètres, j'ai senti que ça tirait. Ouais.
Et après, t'as fini avec une série de 500 mètres.
C'est normal. C'est le manque.
C'est une belle séance,
hein,
de fractionné, ça, Yodu. Hein. C'est des séances difficiles. Hein.
Oui, c'est pas une séance facile. Après, voilà, c'est ça, c'est qu'elles sont faites sur de la fatigue physique, de la fatigue un peu nerveuse, de la fatigue mentale, parce qu'on est, on sait qu'on va entamer cette fameuse période délicate d'affûtage. Donc effectivement, t'es un peu entre deux eaux, parce que t'aimerais avoir des bonnes sensations, t'aimerais te rassurer, t'aimerais aller vite, sauf que tu sais qu'il faut pas le faire, donc tu te freines. D'un autre côté, mentalement, ça commence à tirer et t'es un petit peu usé. On le voit, ils le disent un peu tous. Et c'est vrai que c'est souvent ça, hein, les fins de prépa marathon. C'est un mélange d'excitation et de fatigue. Donc voilà, l'important, c'était de passer ces séances-là, cette dernière semaine un peu de travail. Et puis maintenant, les 15 derniers jours, ça va être vraiment une période un peu plus light. Ouais. Et normalement, on va retrouver de la fraîcheur mentale surtout.
Là, j'appréhende un petit peu la toute dernière semaine psychologiquement. Tu vois, là, je suis plus dans cette phase-là de me dire, quand tu ne voudras faire qu'une seule ou deux sorties avant le marathon, de me dire, bon, bah, il faudra bien manger, bien dormir, comme dirait Kylian.
Ouais.
mais tu vois où je veux en venir, c'est plus ça, en fait.
Ouais, alors ouais, après, c'est l'intérêt des conseils qu'on va donner aujourd'hui, hein, de toute façon. Hein, mm-hmm. C'est bien gérer cette période qui est délicate, même mentalement, d'ailleurs. T'as raison, Arnaud. Ouais, et Yodu, c'est là qu'il faut être bon, d'ailleurs.
Ah, c'est mentalement, ouais. Parce que tu commences à stresser à l'approche du marathon, tu commences à, il faut pas oublier tes affaires, tu commences à acheter toutes les derniers trucs qui te manquent. Enfin, c'est vrai que il y a le stress qui monte progressivement, quoi.
Et t'as pas envie de rendre le matos à la fin. C'est ça le truc. Arnaud, un mot sur la sortie longue avant de te laisser. Comment ça s'est passé? C'est 20 km, 1h55. Bien accompagné, bah, apparemment, d'ailleurs. C'est ce que t'as mis sur Strava.
Ouais, c'est ça. J'étais avec des copains et je pense que ça aide aussi. On l'a fait sur mon rythme, sur le tempo qui était prévu pour moi.
Ouais.
Mais pour le coup, non, j'ai pas vu le temps passer. Des jambes, petite séance de complexe qui va bien après pour récupérer. Donc non, franchement, des super ressentis, ça m'a permis encore plus de me rassurer.
Bon, tant mieux. Merci Arnaud, on te laisse filer
merci.
À la banque pour ton rendez-vous.
Merci. Hein,
signe-nous.
Ouais, merci tout le monde.
Un magnifique PEL, on compte sur toi.
Ouais,
merci Arnaud.
Ça.
Et on te dit à la semaine prochaine. Ciao Arnaud, merci.
Salut Arnaud.
Ciao.
On a le temps de s'intéresser à notre champion quand même, Yoann Durand. Comment s'est passée cette semaine? Tu nous auras fait de belles dingueries sur toute cette prépa. Il y en a encore eu une,
oui.
Donc le week-end dernier avec cette course à domicile, le 5 km et le 10 km. Tu m'as confié d'ailleurs hier que le 5K, tu l'avais fait un peu trop vite, quoi.
Ça ouais. T'a un peu ah ouais, j'ai quoi. Pris un tir. Mon coach, il était sur la ligne d'arrivée quand j'ai vu son regard, quand il a vu le panneau d'affichage.
Bon,
il avait moins de 15 alors qu'il m'avait dit 15-20 et je dois le courir en moins de 15 et ouais, donc il était pas trop content, ouais. Sachant que toute la semaine j'ai fait des trucs un peu plus vite que ce qu'il m'avait donné, donc même là, ben du coup je ressens moi quand je te donne un entraînement et que tu vas trop vite et que ça
ah ouais.
Je me dis bon ok d'accord, il est joueur et tout, du coup je ressens ce que ressent mon coach, tu vois.
Moi, tu me dis
toi.
Pas quand t'es énervé, rarement, c'est vrai. Tu me pourris
non,
pas.
Non, parce
quoi.
Qu'après, c'est à toi d'assumer. Hein. Plus
ouais,
tu vas vite.
C'est
et...
ça le truc.
Et... Ouais, non, mais pour l'instant, t'assumes parfaitement les allures et les chronos, donc il n'y a rien à dire. Hein. Mais ouais, l'idée, c'était de faire un bloc quantité comme ça de 5 plus 10 km allure marathon et de profiter que c'était la course à Bergerac.
Ah ouais. Donc
voilà, et c'était. Je les ai courus allure marathon. Il y a quand même un truc qui me chagrine un peu et qui me fait un peu peur, c'est que j'ai trouvé que la fréquence cardiaque était un petit peu haute. Donc, il va falloir que je vois sur les prochaines, les deux dernières SP que je vais avoir, la J-10 et la J-7, voir ouais. Si c'est toujours un petit peu haut.
Ça peut être lié à quoi? À la fatigue, un petit virus qui couve, c'est quoi?
Ouais, possible. Ouais, possible.
T'as
à la fatigue
soir aussi,
générale, je pense.
Ah ouais.
Comment?
T'as couru le soir, non? Ça joue pas, ça?
Ouais, j'ai couru le soir en soirée. En plus, il faisait nuit. Il faisait nuit, donc c'était pas forcément évident de courir de nuit. Tu sais, dans les rues, elles étaient éclairées, mais pas un gros éclairage de centre-ville. Donc c'était
c'est
un petit peu sombre.
C'est pas Manhattan.
Ouais, c'est ça. On n'est pas, ouais. Pas Las Vegas, là. On n'a pas les mêmes budgets. Hein. Et,
ouais.
Et la veille, j'avais fait du seuil. J'ai pas rien fait cette semaine non plus. Le mercredi, pareil, j'avais fait une grosse séance de tempo. Donc, il faut que je vérifie cette petite fréquence cardiaque qui me semble un petit peu élevée par rapport à mes allures. Et si c'est le cas, bah, faudra peut-être qu'on parte peut-être un petit peu prudemment sur la première partie, parce que autant j'ai des bonnes jambes, autant cette fréquence cardiaque assez élevée, ça m'inquiète un peu, ouais.
Ça, c'est intéressant. Lui qui est athlète pro, il va affiner son objectif jusqu'au dernier jour avant le marathon, quoi. Tu tiens vraiment compte de ta sensation jusqu'au bout, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que 3-4, 3-5, finalement, je suis peut-être. Au niveau des jambes, j'ai l'impression d'être super à l'aise. Et peut-être.
3-4, 3-5 au kilo.
Ouais, 3-4, 3-5 au kilo, pardon. Ouais, c'est pas 3h04 au marathon. C'est 3-4, 3-5, ouais. 19,4 et km/h. Et du coup, ouais, effectivement, je trouve que ma fréquence cardiaque est un petit peu haute. Et donc peut-être que je me pose la question de peut-être partir plutôt sur 3-5, 3-6 sur la première partie. Et puis, écoute, si ça va, finir vite. Mais peut-être l'idée de ce marathon de Paris, je savais que je pouvais, enfin, pour battre son record au marathon de Paris, il faut vraiment être très fort. Et c'était plutôt une étape pour peut-être Berlin en septembre ou Valence en décembre, repasser un marathon pour refaire une prépa, refaire une étape, tester des nouveaux trucs. J'ai testé mes blocs de 3 jours et tout ça. Donc peut-être pas prendre de risques sur le marathon de Paris, on verra.
Et quand tu dis, Johan, que t'es haut, c'est quoi en fait? T'es à combien d'habitude et après t'es à combien?
Enfin, là, normalement, j'estime que je serai plus à 165 BPM sur, ouais, sur mes allures marathon. Et là, grosso modo, j'étais plus à 168, 169, même une petite dérive à la fin à 170, 171. Donc, tu vois, il y a quand même 5-6 pulses. Donc, peut-être que c'est uniquement lié à la fatigue et le fait de faire de l'affûtage cette semaine, de faire de la régénération, ça va re-rentrer dans l'ordre. Et peut-être sur les dernières séances, samedi et dimanche, ça sera nickel. Mais si c'est pas le cas, effectivement, je me poserai la question de partir peut-être un peu moins vite. Ouais.
Ce qui est beau, c'est de voir la précision d'un athlète comme ça.
C'est fou,
c'est fou. À une seconde près au kilomètre et au battement par minute. Alors les battements par minute, c'est un peu lié à tout le monde. Lorsque vous observez vraiment les données, vous savez à peu près dans quelle zone vous vous situez sur les différents efforts, marathon, semi ou 10. Mais lui, il est à la seconde sur le kilomètre, quoi. Donc c'est vrai que c'est comme des Formule 1 en fait. Ce qui est intéressant, ce que tu as dit Mathieu, et j'aimerais bien avoir l'avis des autres, c'est cet état d'esprit. La prépa a été longue, on vous a sélectionné mi-décembre, on a fait une prépa de 12 semaines, donc la charge est montée progressivement, il y a aussi vos problématiques personnelles à côté de ça, problématiques professionnelles, etc. Est-ce que vous ressentez un peu cette lassitude, ou est-ce que vous avez hâte d'y être désormais? Lucie, t'es dans quel état d'esprit, toi qui vas découvrir le marathon d'ailleurs la semaine prochaine?
Un peu mitigé. D'un côté, j'ai super hâte, ça y est, d'y arriver et d'en finir, comme dit Mathieu. Et de l'autre, je suis un peu dans le déni aussi. Je me dis, quoi, dans 12 jours, là, on doit faire un marathon.
Ouais, tu réalises pas encore.
Ah ouais, non, pas du tout. Donc, ouais.
T'as pas l'impatience d'y être? T'as pas l'excitation?
Si, quand même.
Ouais. Hélène, t'es comment, toi, alors?
Moi, j'ai hâte d'y être. Et là, justement, comme ce que je disais, comme les séances vont ralentir, puisqu'on n'en a plus que 4 cette semaine et 2 la semaine prochaine, je vais en profiter, comme j'avais beaucoup de doutes, pour essayer de remotiver, vraiment de me rebooster et rester positive. Et puis aussi, tout ce qui est organisation, quoi, préparer un petit peu aussi en amont comment gérer tout ça, quoi.
Ça sera le thème de la séance la semaine prochaine. C'est vraiment les derniers conseils pour optimiser tout. Hein. Donc, les conseils logistiques, pratiques, sommeil, orientation et tout. Ne rien oublier. C'est pour ça qu'on parle de l'affûtage dès cette semaine. Et Johan, on va y aller tout de suite. On va attaquer. Vas-y, Hélène.
On avait, ça a commencé avec un retard de la CNCF. Et vous voyez, là, j'ai voulu prendre les billets. Il n'y a pas de train du tout le samedi et le dimanche, par exemple.
Ah, ça y est. Donc,
ah, oui. Tu l'as en courant, c'est non. Coup de stress.
Voilà. Ah ouais, c'est... au moins voilà, donc ça c'est fait, donc c'est tout ce côté un peu organisation aussi à laquelle je vais m'attaquer cette semaine, quoi.
Eh ouais, c'est vrai, comme quoi il faut...
Mais Arnaud, il a bien résumé en fait, c'est, tu vois, moi par exemple qui me suis jamais entraîné correctement, j'ai envie d'y être pour voir justement
si ça paye.
Ouais, c'est il a bien résumé.
Voilà,
c'est
si Johan Durand est coach ou influenceur, c'est une arnaque ou pas? Ouais, je comprends. Alors moi, je vous dis que non, parce que moi, il m'entraîne depuis des années.
J'ai que 100% de bons résultats. Après, si tu m'as mis des peintres, si vous avez sélectionné des peintres, c'est plus mon problème.
Non, c'est vrai. Non, puis on
parce
sait.
Que sur les autres prépas, ça a marché. Hein.
Exact. On sait, toi et moi, que si ça foire, c'est Florian Idziak, le responsable. C'est lui qui les a coachés.
Non, mais évidemment. Il n'y a pas de pression à avoir, les gars.
Non, ça sera de prendre du plaisir, bien évidemment. Avant de passer à la séance, on a une forte pensée pour Mariette, et oui, parce que Mariette, c'est le membre de l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui. Mariette, elle fait une très belle prépa. Alors, comment s'est passée sa semaine? On va voir ça tout de suite.
Salut à tous, petit débrief de la semaine. Je vais commencer par les notes. Pour la fatigue aujourd'hui, enfin cette semaine un petit peu plus compliquée, j'étais un peu malade, donc je dirais 6-7 en fatigue. Difficulté, ça a été globalement, sauf pareil la sortie ce matin un peu plus compliquée, donc je vais dire 6-7 aussi. Et plaisir, toujours contente, donc je mettrai une note de 8-9. Voilà, la semaine s'est bien passée, on a eu un début de semaine un petit peu plus tranquille avec plutôt des footings. Vendredi, un peu d'intensité avec une séance piste avec pas mal de 500 et de 400, mais c'était sympa aussi, ça remettait un peu de variété. Et ce matin, sortie longue de 19 km avec 3 fois 3 km allant marathon, qui a été un petit peu compliqué, mais voilà, contente quand même qu'elle soit derrière moi. Et puis maintenant, je vais me concentrer sur les 2 dernières semaines de prépa pour arriver à l'objectif final. Voilà, salut à tous.
Et on l'embrasse, Mariette. On sent que c'est la fin, Johan, hein, quand même. Hein. L'affûtage ouais. arrive au bon moment, quoi. Ça y est.
Ouais, c'est ça. Il est temps de lâcher un peu un peu la bride de l'entraînement, du volume et de les laisser tranquilles maintenant.
Exactement. Allez, on passe tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
L'affûtage, donc cette période de 15 jours, ça dépend évidemment de la distance que vous préparez. Si c'est un 10 km, c'est beaucoup plus court. Pour un marathon, en général, c'est 15 jours à 3 semaines. Pour un semi, ça peut être une dizaine de jours. Le but, c'est de régénérer l'organisme et aussi souffler mentalement après des semaines difficiles de préparation. C'est une étape fondamentale, Johan, pour réussir son marathon. On est obligé de passer par là, de relâcher un peu l'entraînement pour être bon le jour J.
Ouais, t'es obligé de ralentir effectivement l'entraînement pour arriver frais le jour J et performant. L'objectif, en fait, c'est de réduire la fatigue que t'as accumulée pendant toutes ces semaines de préparation. Là, on était sur un dernier gros cycle de 3 semaines. Donc, du coup, c'est de régénérer l'organisme tout en maintenant, la difficulté, c'est ça, c'est de maintenir quand même les acquis de l'entraînement. C'est-à-dire que tu ne dois pas non plus arriver désentraîné. C'est pour ça que tu ne fais pas non plus 15 jours de repos les 15 derniers jours. Il faut mettre des petites piqûres de rappel, des petites séances comme ça d'allure pour avoir des sensations le jour J. Parce que si tu ne fais rien, les premiers kilos, l'organisme il s'est endormi. Il va se dire « mais qu'est-ce que tu me fais ? Ça fait 15 jours que je ne fais plus rien. » Donc il sera pas prêt, ouais.
Quelle est la clé? Parce qu'on va réduire le volume, la fréquence, l'intensité. Comment trouver le juste milieu? Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à tous ceux qui nous suivent, à Lucie, à Mariette, Hélène, Mathieu, Arnaud? Comment on va gérer ça, justement, ce bon dosage?
Il faut réduire de façon progressive. C'est comme dans l'entraînement, dans la progressivité, quand on parle d'augmentation des volumes. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que de la semaine, de S-3 à S-2, je réduis d'environ 20%. De nouveau, de S-3 à S-2, je réduis de nouveau de 20%. Et dans la dernière semaine, je me contente de 30% de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, ça veut dire que si j'étais un coureur qui courait 60 km par semaine, je passe à 40, puis je passe à 30. Et la dernière semaine, je suis à 20 km avant mon marathon. Et c'est comme ça, en graduant progressivement. Et c'est pareil sur le volume des séances. La séance, par exemple, typique à S-3, elle faisait 20 km, généralement entre 20 et 25 km d'allure marathon. La semaine à J-15, elle fait entre 12 et 18 km maximum d'allure marathon. Mmh. Et la dernière semaine à J-7, elle fait entre 8 et 12 km d'allure marathon. Donc, on passe de 20 à 25 à entre 12 et 18 à grosso modo 8 et 12 après pour la dernière semaine. Donc, c'est pareil en termes de volume sur les séances spécifiques. Elles sont diminuées comme ça, pareil, de façon très progressive, ouais.
Il vaut mieux réduire le nombre de séances ou la durée des séances ou les deux?
Les deux, tu peux réduire les deux. Après, tu dois quand même garder de l'intensité, c'est ça. Si tu réduis le volume des séances, il faut quand même maintenir l'intensité. Tu cours quand même à ton allure marathon, tu fais quand même des lignes droites, tu fais quand même des séances VMA. Mais au lieu qu'elles fassent un certain volume, elles font 20 à 30% de volume en moins. Et c'est pareil sur les footings. Si j'avais l'habitude de m'entraîner 5 fois par semaine, là je vais passer à 4 fois par semaine, puis 3 fois par semaine, tout en réduisant un peu l'allure, les intensités et la vitesse. Ouais.
Est-ce que vous avez un peu le programme que Flo vous a préparé cette semaine? Vous savez à quoi ça ressemble?
C'est ce qu'il a dit. Ça réduit le kilométrage avec toujours de l'intensité, avec des petits intervalles. Je crois on a moi personnellement, j'ai 2 x 6, 1 minute 30. Enfin, le premier bloc, 6 x 1 minute 30 avec une récup assez pincée, il me semble. Et après, le deuxième bloc de 1 minute.
Voilà.
Et j'ai de l'EF.
Sans objectif d'allure, il t'a mis ça à la sensation
impossible. Il m'en a mis avec de l'allure marathon.
Ok.
Et il m'a mis sur piste, je vais aller faire, c'est autour de 3,50 et 4 minutes, la minute 30, la minute.
Okay.
Et j'ai des blocs, je ne sais plus c'est quoi exactement, mais en gros, c'est l'allure marathon à répéter. Ouais.
Tu as combien de séances cette
J'en
semaine?
J'en ai 4.
4. Ouais. Et tu étais à 5 séances jusqu'à la semaine dernière.
5, ouais.
Ok. Lucie, c'est pareil, le nombre de séances 10 minutes, tu sais?
Alors moi, ça va être un peu particulier.
Parce que tu as fait la sortie longue ce matin.
Ouais. Là, je suis censée avoir 4 séances. Mais du coup, j'aurais fait 20 km la semaine dernière. Et là, je suis censée en faire 50. Donc, je vais voir avec le coach
si tu adaptes un peu.
Si j'adapte un peu, ouais. Mais ouais, j'ai une séance aussi de vitesse là, cette semaine.
Okay.
Et après, deux autres sorties assez cool.
Hélène, toi, tu as à peu près le même programme que Mathieu ?
Ouais, à peu près, c'est ça. Aujourd'hui, c'était une heure de récupération. Mercredi, ça va être 5 fois 1 minute, 1 minute, 5 fois 1 30, 1 30, et 3 fois 2 minutes, 2 minutes, mais à 95% de VMA, donc on va encore aller chercher un peu de vitesse. Ouais. Et après, le vendredi, j'ai 1h15 en endurance, et le dimanche, j'ai une sortie d'1h15 avec 6 fois 3 minutes, aller en marathon.
Yodu, qu'est-ce que tu fais cette semaine ?
Je sais pas, j'ai pas encore mon plan. Faut que je joue avec le coach, mais généralement c'est des séances. J'aurai certainement un petit fartlek comme tout le monde là, avec des 1 ou des 1:30, un truc qui, une petite VMA, mais plutôt en nature que sur piste. Je pense que j'aurai une séance de tempo à J-10 sur 20-25 minutes d'effort avec peut-être 3 fois 8 minutes ou 3 fois 10 minutes, un truc comme ça, un peu au seuil. Et dimanche, moi j'ai toujours mes habitudes, je fais généralement soit 8 km allure marathon, soit 2 fois 4 km ou 2 fois 5 km. Ça c'est, on verra avec le coach un peu au feeling, suivant le milieu de semaine, suivant comment je me sens, ouais.
Est-ce que tu as un conseil pour la dernière sortie longue, entre guillemets, c'est la dernière répétition d'allure marathon ? Si on la place le week-end, c'est forcément le dimanche, oui, une semaine avant la course, ou vaut mieux la placer le samedi ?
Non, ça, c'est pas forcément obligatoire le samedi ou le dimanche. C'est pas gênant par rapport à ça. Juste à respecter les allures. Ça sert à rien de se rassurer. Ça sert à rien d'aller taper 20 ou 25 km à J-7. C'est beaucoup trop. Il faut vraiment faire confiance à ça. Faut pas faire non plus confiance à ces sensations à J-7, parce que souvent, des fois, j'ai eu des sensations un peu biaisées, parce que le fait de faire cette période d'affûtage fait que du coup on a une sensation un peu bizarre, des fois on a du mal à mettre
un
en rythme et tout,
ouais.
Un peu mou, ouais, c'est ça, un peu mou. Et donc du coup, ne pas se fier à ça pour le jour J, vraiment le jour J, et ça sera vraiment un autre jour. Donc mais par contre, bien travailler, c'est le dernier moment pour vraiment tester ses chaussures, pour tester ses chaussettes, pour tester ses gels, pour tester son short, pour tester son débardeur, savoir comment je m'habille et tout. Là, c'est vraiment la dernière séance, donc là c'est la dernière répète. Et puis après, il faut juste avoir envie de courir. Là, normalement l'envie va revenir à partir de dans la dernière semaine, c'est sûr et certain.
On dirait Johnny Hallyday, quoi.
L'envie d'avoir envie.
Exactement. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de séance test. Moi, je m'attendais à une séance test pour tout le monde à J-10, tu vois, par exemple.
Les fameux 800, la séance test, pour eux, elle a été faite à c'était leur fameux 30 km à 3 semaines. Après, ouais, il y a la fameuse séance Yago, là, de 10 x 800 allure marathon. Ça peut se faire, hein. Moi je l'ai eu fait qu'une seule fois dans mes prépas, et la séance s'était pas bien passée, justement.
Merci le coach de pas l'avoir fait, celle-là. Le 10 x 800, ça pique.
Ça te donne le temps, c'est ça.
En fait, si tu fais 10 x 800 et que tu tournes les 800 en 3 minutes de moyenne, tu peux te dire que tu peux partir sur 3 heures au marathon.
Et toi, Yann, quand tu l'avais fait, ça t'avait donné quoi ? Ça marche, ça ?
Non, bah justement, ça m'avait pas mis en confiance.
59 records du monde.
Ouais. Non, justement, ça m'avait pas mis en confiance. J'étais en 2-12, 2-13, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, je sentais que j'étais un peu... J'étais pas saignant sur la séance, et du coup, ça m'avait mis un petit coup au moral pour le marathon, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu risqué de faire ce genre de séance, parce que c'est pas une période où faut et parce que si tu veux être dans les chronos, tu forces pour passer la séance.
Voilà.
Et derrière, après, est-ce qu'il y a un intérêt pour le marathon d'avoir forcé comme ça sur un volume de 8 km à J-10 sur des allures qui sont nettement plus rapides que ton allure marathon? En plus, je préfère faire du tempo et de l'allure marathon, du classique, quelque chose que je connais, que le 800 qui est une VMA longue, en fait, parce que 10 x 800 c'est une VMA longue et qui est pas facile. Ouais. Ouais, en plus.
Tous nos membres ont fait du renfo tout au long de cette prépa. Sauf Mathieu, évidemment, qui préfère faire un régime Coca-Smecta, évidemment.
Régime dissocié, kebab, voilà. Un jour kebab.
Ouais.
Un jour,
exactement. Comment on gère le renfo pendant l'affûtage ? Est-ce que là aussi on réduit progressivement ? Est-ce qu'on en profite pour en faire plus ? Comment ça se passe ?
Non, ouais, c'est pareil. C'est comme la course à pied, faut le réduire de façon progressive. Faut pas non plus l'arrêter, surtout si on a des pathologies type tendinite et tout. Moi, c'est ce qui m'était arrivé il y a 2 ans avec ma tendinite au genou et j'avais arrêté totalement le renfo les 15 derniers jours et la tendinite s'était un petit peu réveillée. Donc on ne stoppe pas totalement le renfo, mais on enlève les charges lourdes, on fait plus trop de vraies musculations pures. On se contente de vraiment des petites séances de renfo plutôt courtes, plutôt par contre avec des petites répétitions. Mais on l'enlève pas complètement. Et par contre, c'est pas parce que je fais moins de volume que j'en profite pour me buter à la salle. Ça ouais. sert à rien d'arriver musculeux. Comme un fou, faut aussi garder. C'est du temps. C'est cet entraînement-là, c'est du temps que vous avez plus pour vous reposer, pour bien s'alimenter, pour bien s'hydrater, pour bien se reposer. Donc c'est pas le moment d'aller faire parce que je cours pas, d'aller faire un autre sport, de se dire bon bah je vais aller jouer au paddle vu que j'ai plus ma séance de course à pied. Ouais. Voilà, c'est pas le moment d'aller à la salle faire des heures à la salle. Ouais. Faut se reposer.
Est-ce que vous savez ce que c'est que le régime dissocié scandinave ?
Ouais, j'en ai déjà entendu parler.
J'en ai déjà entendu parler. Ouais. Hélène, est-ce que ça te parle ?
Oui, ça me parle aussi.
C'est donc ce régime à la mode, Yodu, avant les grandes échéances en course à pied sur les sports d'endurance. Tu vas nous rappeler ce que c'est exactement, mais pour vulgariser, c'est de J-7, je crois, jusqu'à J-5, J-4. Tu enlèves tout le sucre de ton alimentation, donc tu enlèves tous les glucides. Tu te contentes, voilà, tu manges des œufs et des brocolis.
En gros,
à peu près.
T'as envie de tuer quelqu'un au bout de 2 jours, mais l'idée, c'est de vider... à bloc les recharges glucidiques pour ensuite faire un énorme apport et avoir les batteries rechargées au maximum. Est-ce que tu le conseilles à tous ceux qu'on encadre et à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes et sur tous nos réseaux sociaux, ou est-ce que tu dis attention, si vous ne l'avez pas testé, si c'est votre grande échéance de l'année, c'est pas le moment de tester n'importe quoi?
Ouais, c'est pas le moment de tester n'importe quoi. Effectivement, on en avait discuté avec des diététiciens sur ce podcast. On en avait fait des épisodes un peu spéciaux. Et c'est vrai que c'est risqué parce que le fait d'enlever de ton organisme pendant 3 jours, les sucres, là, on voit que on est vraiment dépendant au sucre, parce que je te jure que c'est vraiment compliqué de bannir tous les glucides de l'alimentation. Donc déjà, tu changes ton alimentation, ça te crée des petits problèmes, ça peut te créer des déséquilibres intestinaux qui fait que tu peux commencer à avoir mal au ventre et tout ça à J-5 de ton marathon. En plus, les dernières séances, la séance du mardi, la séance à J-5, qui est ta vraiment dernière séance, rappel d'allure et tout, tu l'as fait, mais sans aucun carburant. Donc, autant te
comme
dire
un
que
vivant,
tu termines.
Ouais, c'est sûr.
Ah, tu termines, t'es un mort-vivant, t'es blanc, ouais. T'es pâle, et tu te dis, mais j'ai un marathon dans 5 jours, je tiens même pas l'allure. Donc, tu te mets le Bronx dans ta tête. Donc, effectivement, c'est un pari risqué que de le faire. Moi, je le conseille de le faire, mais plutôt sur, pourquoi pas, sur un semi ou sur une première compétition, peut-être pas un marathon directement.
Ouais, pas l'objectif de l'année, quoi.
Pas l'objectif de sa saison. Si ce marathon de Paris, c'est mon premier et que je sais que derrière, je vais en courir d'autres pour aller chercher des RP et tout, j'ai envie de dire, tu peux. Teste, vas-y, t'as rien à perdre, c'est pas ton objectif, c'est ton premier test, tu verras bien. Mais l'idée, c'est de quand même pas supprimer, on en a discuté avec les diététiciens, c'est de pas supprimer tous les glucides de son alimentation, d'en garder un petit peu. Moi, je sais que quand je le faisais, je gardais quand même mes tartines de pain le matin, mais j'enlevais le miel, j'enlève le sucre du café, j'enlève les pâtes, je gardais un fruit au niveau de la collation, et après, tout ce qu'il y a autour, il n'y avait plus de glucides pendant les repas, c'était vraiment que des parts base de légumes, de fibres ou de protéines, et donc du coup c'est délicat. Mais par contre, à partir du mercredi, l'idée c'est de recharger pour que le dimanche, en fait, ton organisme s'est dit vu que j'avais eu ce déficit en glucides, je vais en stocker plus. C'est la réaction normale du corps.
Mais quand tu remets tout d'un coup,
Mathieu il est en PLS, je te le dis.
T'es pas fatigué? Tu te sens pas fatigué?
Non, tu es Obélix, quoi. Tu as l'impression de manger tout le temps. Tu manges parce que tu augmentes la part de féculents du mercredi au vendredi. Et après, moi, je revenais à des portions normales le samedi pour pas non plus créer un déséquilibre et arriver avec un bide complètement explosé. Mais le fait de recharger en féculents forts, Tu peux même associer ça à une prise de maltodextrine, là, la boisson d'effort qui te permet aussi d'apporter des glucides via la boisson. Ça peut être hyper intéressant. Ouais. Mais c'est un pari risqué, donc renseignez-vous. Il faut vraiment être suivi, je pense, par un diététicien vraiment bien se connaître pour le tester. Ouais.
Tu vas le faire, toi, Yodu ?
Je pense que je vais le faire, ouais.
Je pense
que je vais le refaire. Je l'avais pas fait pour Valence, mais je l'avais fait pour tous mes autres marathons. Et je vais le refaire cette année, ouais. Mais comme je le dis, je maintiens un petit peu. T'imagines, plus de coca, mec.
Non, mais ce qu'on fait, Mathieu, si t'atteins pas ton objectif, on va te demander de le faire pendant une semaine.
C'est pas possible. Voilà.
Ah ouais, moi, je pense à ta femme et tes enfants, ils vont vivre un calvaire. T'imagines, c'est l'horreur.
Sans le sucre, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Ah non, mais
ça vous tente pas, les filles ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, Lucie. Hélène, toi, non plus ?
Non.
Bon, je serai tout seul alors.
Au-delà de ce régime, Johan, est-ce que c'est le moment d'être vraiment vigilant par rapport à la nutrition, justement ? Tu parlais de sommeil, il faut aussi dormir le plus possible. Évidemment, la dernière semaine, on y pense à bloc parce qu'on essaye d'optimiser tous les curseurs comme ça. Dès maintenant, tu penses qu'il faut faire un peu attention à son assiette ? Il faut limiter les excès.
Ouais. Ah oui, là c'est le moment de bien faire le taf. Ouais. C'est-à-dire que moi, pendant la prépa, généralement, je ne me prends pas trop la tête et je ne prends pas trop la tête avec les athlètes ou les conseils. Je dis toujours, faites-vous plaisir. Si vous devez prendre un aliment plaisir, pourquoi pas. Mais là, c'est terminé. Là c'est dommage, mais devant moi il y a un panneau où il y a écrit J-15, plus de pizza, plus de cookies. C'est écrit et du coup je m'y tiens. Donc effectivement non, là il y a plus de cochonnerie, il y a plus rien. C'est vraiment là c'est les 15 jours où faut faire attention à ce qu'on mange, faut faire le taf, faut vraiment emmagasiner, faut bien dormir, bien récupérer. C'est vraiment ces 15 jours là qui sont importants pour arriver frais le jour J. Et au-delà de l'alimentation et du sommeil, il y a aussi ne pas tomber malade. Voilà, là c'est un peu le risque de tout le monde, stress. Tu m'as envoyé un message en me disant faut mettre le masque FFP2, mais vrai que là je vais commencer à plus aller faire des gros bisous à mes neveux de 4 ans qui à la maternelle ont chopé toutes les bactéries du monde, hein. Là c'est terminé les câlins, là c'est hop, tu m'approches pas et on verra ça plus tard, hein. Là faut vraiment faire attention, de parce qu'en plus là il commence à faire chaud, tu te dis vas-y je vais aller courir en t-shirt et puis le coup de froid il est vite arrivé, donc attention à ça aussi. Ouais.
Est-ce que globalement les filles vous surveillez ce que vous mangez ou pas particulièrement ? Lucie, tu fais attention ?
Là pas trop, il va falloir s'y mettre. Ouais, j'y pensais parce qu'avec le coach on a un groupe et c'est pas rare qu'on s'envoie des petites photos de nos desserts. Là,
Même Mathieu, il a envoyé ses desserts ou pas ?
Bah, il nous parle de ses céréales là.
Ah ouais, ok.
Je suis plus dans les glaces en ce moment. Ah, j'arrête là. Il a dit 15 jours, je suis bon. Là, c'était mon dernier Kinder Country. Tout à l'heure, j'arrête.
Tu vas arrêter vraiment ?
Voilà,
je vais essayer.
Ok. Bon, on va se renseigner. Hein,
Le jeûne intermittent. Ça marche ou pas, Johan, si je prends pas de sucre pendant 16 heures et...
Voilà. Et tu vas encore plus te fatiguer, mon vieux.
Non, on va faire attention. Ouais.
Hélène, tu fais attention ?
Ouais, je fais attention. Et là, je vais faire davantage attention. Puis c'est vrai que, comme au niveau sommeil, je sais que je ne peux pas optimiser. Du coup, je mets l'accent aussi sur la nutrition, parce qu'il y a un des paramètres que je ne maîtrise pas. Donc, au moins, celui-ci, je peux jouer dessus. Donc, j'essaye de l'optimiser.
Tu as bien raison. Comment on gère la caféine ? Parce que ça peut être une question pour certains aussi, ceux qui consomment beaucoup de café.
Le jour de la course ?
Non, cette période. Est-ce qu'on continue à boire du café comme on en a l'habitude ?
Voilà, je sais pas, ça effectivement je suis pas persuadé que, alors ça, ouais, il faut éviter les cafés après 16 heures pour quand même par rapport au sommeil, mais non, ceux qui ont l'habitude de boire du café, tu sais, à partir du moment où tu as créé une accoutumance, c'est compliqué de s'en passer pour ceux qui boivent beaucoup de café. Donc là-dessus j'irai pas les tatillonner ou leur dire c'est pas bien. Autant si je les surprends avec un burger ou une pizza ou un gros plat en sauce, une raclette, un truc du genre, là oui. Mais sur le café, non, je les laisse tranquilles, parce que c'est vrai que
ça reste un plaisir
pour eux. Ouais, c'est un plaisir pour eux, et puis surtout la caféine, des fois elle a même plus d'effet sur eux tellement ils en boivent, donc non là-dessus ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais.
Avant que Johan ne réponde aux questions de toute la communauté RMC Running qui s'interroge sur différents sujets, est-ce que vous avez des questions pour Yodu ? Lucie, Hélène, Mathieu, est-ce que vous avez une interrogation particulière ?
Non, non, non.
Non, c'est bon.
Ouais, ouais, je pense que...
Tout est clair.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, magnifique.
Ils sont sereins.
Ouais. Allons-y alors pour les questions et on vous remercie d'ailleurs tous les RMC Runners, parce qu'on va vous appeler comme ça désormais, ouais, parce que vous courez, vous pensez et vous écoutez RMC Running. La première question, elle est de Philippe, c'est une vidéo qu'il nous a laissée. Tu vas voir, il va t'expliquer sa problématique et on va voir comment tu réponds, Yodu. On écoute.
Salut la team RMC Running, salut à Benoît et à Maître Yodu. J'ai une petite question stratégie marathon. Pour dimanche prochain, je cours à Bratislava en Slovaquie où je réside et j'aimerais tenter de passer sous les 3 heures. Et en fait, je me pose la question de la stratégie à adopter, la stratégie de course. J'hésite en fait entre un départ légèrement plus rapide pour passer au semi en 1:27, 1:28 et me donner une petite marge de sécurité pour la seconde partie de course en cas de défaillance ou d'un quelconque problème. En fait, une deuxième possibilité qui serait de respecter purement et simplement mon allure de 4:15 et me caler en mode régulateur et passer au semi en 1:29:40. Voilà, donc la seconde stratégie, je trouve qu'elle me laisse vraiment pas le droit à une quelconque défaillance dans la seconde partie. Et dans la première stratégie, en fait, j'ai peur de payer un départ légèrement plus rapide et de terminer en fait en positive split, quoi. Donc j'ai du mal à trancher, d'où ma question, et j'espère que vous saurez, mais j'en suis certain, y apporter les éclaircissements nécessaires. Voilà, merci pour votre podcast et les bonnes vibes que vous y véhiculez. À bientôt, ciao.
Un grand merci à Philippe. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose quand on a un objectif déterminé, Johan. Qu'est-ce que je fais? Je pars précisément sur l'objectif ou je cours un peu plus vite au début, quitte à perdre du temps sur la seconde partie?
Ouais. Ben là, je vais avoir du mal à lui répondre parce que je connais pas le marathon de Bratislava, malheureusement. Ouais.
J'ai tu pas connais que les Bratislava Boys, toi.
Ouais, je connais que les Bratislava Boys, ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas trop quoi répondre parce qu'effectivement, suivant le parcours peut te donner des indices de savoir si tu peux partir vite ou pas. Par exemple, le marathon de Paris, typiquement, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas partir trop vite parce que la deuxième partie du parcours est quand même beaucoup plus difficile que la première. À l'inverse, au marathon de Valence, avec ses 7 derniers kilomètres en faux plat descendant, là, j'ai envie de te dire, vas-y, tu peux prendre des risques parce que si tu exploses, bah, tu peux limiter la casse parce que le parcours est favorable sur la deuxième partie. Et c'est la deuxième chose, ça va être aussi son passif. C'est-à-dire que si c'est son premier marathon, à des néo-marathoniens, à quelqu'un qui découvre la distance, j'ai envie de lui dire ne prends pas de risques, cours sur ton allure marathon, enfin voilà, t'es parti sur cet objectif-là, reste là-dessus, prends pas de risques. À l'inverse, si t'en as déjà couru 3-4, que t'as l'expérience de la distance, que tu connais déjà cette sensation quand tu vas arriver au 30e, que t'as déjà peut-être même connu le mur, que t'as eu une défaillance, que t'as l'habitude, bah là j'ai envie de te dire vas-y, prends des risques, tente des choses, c'est le moment de mettre des choses en place pour essayer d'aller chercher un RP. Donc prendre des risques, effectivement, ça peut s'entendre. Tu vois, si on prend ton cas, Benoît, effectivement, toi, tu as déjà couru combien? 7, 8 marathons?
10.
Bah, à un moment donné, 10, voilà, c'est ton 10e, 11e?
11e, là, ça va être le 10. Ouais. 11e,
ouais. Voilà, 11 marathons. Donc, effectivement, toi, tu peux prendre des risques. C'est une discipline que tu connais. Tu connais cette sensation qui va arriver au 30-35e. Voilà, t'es pas novice. Donc, si tu me dis, j'ai envie de passer en... plus vite que mon allure de 1 à 2 minutes, attention, hein, le conseil c'est pas de passer avec 5 minutes d'avance, mais 2 minutes d'avance c'est très bien, et je suis ok là-dessus, surtout quand la préparation a été bonne. Là c'est ton cas, peut-être que c'est le cas de Philippe aussi. Donc si la préparation a été bonne, si c'est pas ton premier marathon et si le parcours en plus il te permet de finir vite, de pouvoir limiter la casse si jamais t'exploses, bah ouais, vas-y, régale-toi, prends des risques. Et puis tu verras.
Il y a quelque chose de facile, c'est de faire un point aussi tous les 5 km et de se dire l'allure idéale pour atteindre l'objectif, c'est ça, et de se permettre de passer quelques secondes en deçà à chaque fois et d'essayer de tenir le plus longtemps possible, tu vois, Johan. Plutôt que d'avoir un écart aussi important qu'une ou deux minutes sur semi, se dire si sur chaque kilomètre je dois courir à 4:15, bah faut que chaque kilo au début et le plus longtemps possible, je les passe en 4:11, 4:12, 4:13, quoi, c'est ça.
Ouais, et puis faire un point avec soi-même. Si au 15e kilomètre, tu te dis oh là, mais j'ai l'impression que cette allure-là, je vais peut-être pas la tenir, ne pas avoir peur à ralentir un petit peu le tempo de quelques secondes pour se recaler dans ses allures et peut-être terminer dans ses allures marathon. Mais la, l'avance que tu auras pris, bah, elle sera toujours là à l'arrivée. Donc effectivement, c'est des stratégies. Tout de même, on en a déjà parlé ici, mais tu as toujours un plan A, un plan B, un plan C. Et dans tes stratégies, tu as aussi de quoi les aiguiller et de quoi les modifier suivant le parcours. Par exemple, à Paris, une fois que tu as passé l'hippodrome de Vincennes, là, au 13 ou 14e, tu as faux plat descendant jusqu'au 22. Donc, si jamais tu passes déjà en avance, dis-toi qu'au semi, tu auras encore plus d'avance parce que là, avec le faux plat descendant, donc voilà, c'est aussi en fonction du parcours. Donc, de ne pas avoir peur à bien étudier le parcours et le profil. Ouais.
C'est simple, dès que vous passerez devant chez Lucie, après ça descend et puis après c'est bon. Ouais. Après vous attaquez les quais de Seine. Donc on vous mettra un point évidemment pour savoir où elle habite exactement. Et puis après vous direz à partir de là c'est bon. Autre question en vidéo, c'est Eric qui avait une interrogation pour toi, Yodu. Écoute.
Salut Benoît, salut Dr Love. Alors moi j'ai une question sur l'après-course. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire dans les heures et dans les jours qui suivent la fin du marathon pour bien récupérer. Est-ce qu'on peut imaginer de faire un petit run de récup, même quelques heures après le marathon, ou plutôt le lendemain? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux éviter les impacts et peut-être plutôt se tourner vers des sports portés comme le vélo ou la natation? Ou alors il faut carrément rien faire du tout pendant plusieurs jours et squatter le canapé avec les chaussettes de compression et le rouleau de massage à portée de main? Voilà.
Merci
et bon courage aux champions.
On l'embrasse, Eric, on l'avait encadré pour le 10K Oka, il avait été très bon d'ailleurs sur le 10K Oka. Yodu alors
Ouais, effectivement, bah, là c'est pareil, ça va, je pense que la décision, là elle est dure à dire, ça va vraiment dépendre de comment tu termines ton marathon. Si tu le termines en ayant fracassé le mur au 25e et avoir fait 17 km comme un zombie sur la fin de course, mon conseil, ça sera vraiment de privilégier la récupération à 100%, aller un peu sur des sports portés, mais oublier la course pendant vraiment presque 15 jours, 3 semaines, tranquillou, où tu vas régénérer et tu vas accepter un peu ça. À l'inverse, si tu as fait un beau marathon, que ça s'est bien passé, que en plus tu l'as terminé en negative split, que sur la deuxième partie tu étais plus rapide, que tout s'est bien passé, pas de défaillance, pas de déshydratation, bah tu peux pourquoi pas retrottiner légèrement au bout de 10 jours, reprendre comme ça à partir de 15 jours sans aucun problème. C'est propre à chacun, mais le plus important, ça va être quand même de bien, dans les heures qui suivent, de bien s'hydrater. L'alimentation, elle est quand même aussi primordiale dans les heures qui suivent, à savoir beaucoup de protéines, des choses comme ça pour refaire un peu le stock musculaire qu'il y a, parce que musculairement, on a été vachement blessé par la course à pied et les traumas. Donc effectivement, faut recharger d'un point de vue protéines, d'un point de vue glucidique aussi, hydratation bien évidemment, et puis après c'est plutôt les massages doux, des choses comme ça. Faut vraiment écouter son corps et faut aller courir quand on a envie. C'est vraiment le mot que j'ai envie de dire, c'est d'y aller quand la tête veut y aller. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller courir, bah vas-y. Mais après, tu ne dois pas culpabiliser de rester dans ton canapé pendant au moins 15 jours et de te reposer. C'est vraiment, c'est vraiment ton cas personnel et ta sensation à la fin de ton marathon qui doit te motiver. Ouais.
Lucie, tu avais une question?
Ouais, j'ai une question qui m'est venue en vous entendant parler un peu du mur et de la difficulté au 30-35e. Si jamais vraiment ça ne va pas, est-ce que tu conseilles de marcher pour repartir de plus belle, ou alors vaut mieux vraiment éviter de marcher quitte à trottiner très lentement?
Non, ouais, alors ça dépend à quel moment ça arrive, mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ralentir, hein, ça c'est une certitude, il faut l'accepter, et il faut se découper. Je ne sais pas si ça t'arrive au 35e, tu sais qu'il te reste 7 km, et ben tu te dis, je cours 2 km, je marche 500 mètres, je cours 2 km, je marche 500 mètres, et tu verras que bah, il restera plus qu'un kilomètre à la fin. Donc voilà, se le découper, ne pas avoir peur à ralentir, à baisser l'allure pour peut-être faire descendre le cardio et pour peut-être relancer à un moment donné la machine, parce que le corps humain, il est tellement bizarre que des fois il suffit de pas grand chose pour pour passer une zone d'orage. Hein. Des fois, vous êtes complètement sous l'eau et puis il suffit de croiser quelqu'un de sa famille, prendre un gel au bon moment, l'hydratation au bon moment qui va bien, qui vous rebooste. Le fait d'avoir ce kilomètre et demi, ces deux derniers kilomètres et demi en faux plat descendant, c'est pareil, ça peut rebooster aussi et vous redonner un peu des ailes. Donc voilà, il faut faire confiance à son organisme et ne pas avoir peur de ralentir par moment et puis de le fractionner. Il faut le fractionner mentalement en se disant « Allez, je marche au moins un kill, après je me repose, je remarche un kill, je me repose. » Et je pense que ça peut être une bonne stratégie.
Yoann, c'est un coach, mais c'est un athlète élite, donc il n'a pas vécu ces situations. Vous avez déjà fait le marathon, Mathieu et Hélène. Juste par expérience, le seul défaut de ça, c'est que quand tu commences à marcher, tu auras toujours la tentation de marcher après.
Oui.
Donc peut-être qu'il vaut mieux ralentir l'allure et éviter au maximum de marcher, parce que si ça commence au 25e ou au 30e, tu seras toujours tenté au bout de 500 ou 600 mètres.
Au 25e, je suis pas arrivé.
Ah, c'est ça, bah, c'est ça. Ouais. Si ça commence tôt, malheureusement, tu auras l'envie. Et alors, il y a une autre donnée qu'on prend pas en considération tant qu'on l'a pas vécu, c'est que tu arrives aussi à un moment où, à partir du 30 ou 35e, autour de toi, il y a aussi des gens qui souffrent et qui marchent. Et ça, moralement, ça peut être dur aussi de voir. Si toi, tu es dans un moment difficile et que tu vois que ça marche ou que ça souffre à côté, tu peux être tenté aussi de ralentir. Mathieu ou Hélène, vous l'avez déjà ressenti ce moment-là?
Ouais, j'ai failli moi m'arrêter l'année dernière.
Ça craque à côté de vous, quoi.
Je cours avec un gars. Ouais. En fait, vers le 20e, on était ensemble. On se relayait un peu.
Ouais.
Et en fait, on est monté au 35e et j'ai vu que lui, en fait, son corps, il bougeait, mais il avançait plus, en fait. Et psychologiquement, j'ai vu qu'il lâchait, en fait. J'ai essayé de lui dire, allez, on y va.
Ouais.
Et moi, j'ai ralenti. J'ai envoyé en plus à Hélène cette semaine les temps de passage à partir du 35e. Et je me suis écroulé, en fait. Oui. Et lui, je ne l'ai pas revu. Et en fait, mentalement, je me suis dit, non, il ne peut pas à ce moment-là. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse comme lui. Et comme tu dis, en fait, moi, je ne me suis pas laissé emporter. Par contre, j'ai ralenti drastiquement, quoi. J'ai vu le truc s'envoler. Bon.
Je dois être un psychopathe, mais moi, j'ai regardé aussi les résultats de l'année dernière pour voir quand est-ce que les gens s'écroulaient en moyenne sur les chronos que je vise à peu près. C'est quasiment systématiquement le même schéma. Bah, c'est le même schéma à chaque fois. C'est quand tu arrives au 36e, que tu arrives à l'entrée de Roland-Garros, que les kilos commencent à baisser. Ouais. Quoi. Et c'est là que c'est dur. Et il y a toujours ce regain d'énergie une fois que le Trocadéro est passé. Ouais, et hop, que tu as
l'impression que ça descend. Il y a 5 kills.
Ouais, musculairement, t'es achevé, mais bon, c'est toujours ce truc aussi. Et
puis la foule après.
Mental
à la fin,
de te dire, allez, j'y vais.
Tu vois l'arche verte et tout, ça motive.
C'est très rare sur le marathon de Paris d'avoir des courbes régulières. C'est pour ça que
t'as vu la fin surtout. C'est compliqué.
C'est clair. Hélène, tu l'as vécu ce moment où tu vois des gens craquer autour de toi et où mentalement, il faut pas céder?
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'étais bien contente de pas avoir marché sur les deux marathons que j'ai déjà fait, parce que. Quand voilà, à l'arrivée, quand j'ai vu l'état des jambes, quand je marchais, je me suis dit, bah, heureusement que je ne me suis pas arrêtée, même à un ravitaillement ou quoi que ce soit. Parce que sinon, ça aurait été très dur de repartir vu l'état des jambes. Je me suis dit, finalement, trop dîner, c'est bien et pas marcher. Ouais.
Relancer la machine là, quand tu as les jambes explosées, c'est très compliqué. Hein.
Ouais. C'est dur.
Et puis, on a une dernière question. Elle est écrite, celle-là, donc je vais vous la lire, celle de Cédric. Yodu, comment tu expliques une différence de rythme cardiaque? Et il donne l'exemple. Moi, j'ai fait un semi avec une moyenne de 169 battements par minute. Quand je vois qu'à côté de ça, Dorian Louvet, donc notre ami Dorian qu'on embrasse, réalise un marathon à 140 battements par minute.
Alors, Dorian, 140 par minute, je suis quand même pas sûr des chiffres. Hein. Ouais. Ou alors, il a un FC max très bas. Parce que normalement, je pense que sur un athlète comme lui, il doit être à 150, 160. Mais après, c'est vrai que les cardio battent pas. On n'a pas tous la même fréquence cardiaque de repos et on n'a pas tous la même fréquence cardiaque maximale. Donc effectivement, il y a un écart qui existe là-dessus. On a tous entendu parler de normalement la fréquence cardiaque max. Ils te disent 220 moins l'âge. Sauf que moi, je monte encore beaucoup plus haut que ce chiffre-là. Et après, effectivement...
Alors que t'es vieux.
Alors que je suis très vieux même. Et tu vois, pourtant, j'ai un cœur d'un jeune ado. Donc, tu vois. Et donc après, et c'est ton pourcentage de fréquence cardiaque max qui va te donner un peu ton allure au marathon. C'est vrai que nous, les athlètes élites, potentiellement, on est capable de courir notre marathon à 85% de notre FC max. Quand un coureur lambda, lui, va tenir peut-être aller à 75 ou 80%. Donc ça, c'est propre à chacun. Le plus important chez le sportif, c'est l'amplitude entre ta fréquence cardiaque de repos et ta fréquence cardiaque max. Plus elle est grande et mieux c'est, parce que du coup, tu as plus de zones de travail. Et après, ouais, c'est propre à chacun. C'est le côté héréditaire, c'est un facteur individuel, génétique. Mais ça se travaille. Hein. Effectivement, plus tu fais du haut niveau, enfin, plus tu t'entraînes, plus tu habitues ton cœur, plus tu le travailles. Et plus, normalement, ta fréquence cardiaque de repos, elle baisse. Donc, du coup, tu as quand même une meilleure endurance cardiovasculaire parce que ton cœur est beaucoup plus efficace. Ouais.
Mais quand tu connais tes zones, c'est là que tu te rends compte aussi de la progression. Parce que moi, je sais que je cours le marathon entre 150 et 160 battements par minute, alors que je gagne du temps sur les marathons et que la vitesse augmente. Donc, mais en revanche, je sais que c'est cette zone-là qui me correspond sur marathon. D'où l'intérêt de surveiller la fréquence cardiaque. Comme ça, tu connais tes zones et en fonction de ton entraînement, c'est l'allure qui s'ajuste et non pas le rythme cardiaque. Quoi. Donc c'est pour ça que ça peut être sympa.
Typiquement, moi, je suis à 10 battements au-dessus du tien. Moi, je suis entre 160 et 170.
Sur un marathon.
Et c'est sur un marathon. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'en en parlais en début d'émission par rapport au fait que j'étais déjà dans la fourchette haute sur sur mes allures marathon. Donc voilà, c'est génétique. Pourtant, on a quasiment le même âge, mais c'est la taille du cœur. C'est propre à chacun. Ouais.
Et dernier mot, juste sur ça, ceux qui surveillent la fréquence cardiaque avec un brassard ou une ceinture, c'est là que vous pouvez surveiller si vous êtes dans le vrai sur votre marathon, parce que s'il y a une vraie dérive cardiaque au bout de peu de kilomètres, c'est qu'il y a un problème, qu'il y a un problème quelque part. Vous êtes parti trop vite ou il y a quelque chose.
Trop vite, ouais. Ou le stress après.
Ou le stress, t'as raison. Voilà. Ouais, de toute façon, sur la ligne de départ, vous serez déjà à 100 BPM sans avoir fait un pas. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera déjà
haut. Non, mais c'est ça. S'il fait chaud, en plus, on sait très bien que les conditions climatiques aussi, une chaleur ou beaucoup d'humidité font que le cœur bat plus vite. Donc, il y a plein de paramètres extérieurs qu'il faut prendre en compte. Ouais.
Yodu, t'as été parfait. Comme d'habitude, un grand merci à Mathieu, notre roi du coca, à Lucie, qui vient de faire sa sortie longue, à Hélène, notre normande. On pense à Arnaud, notre breton, à Mariette également. La semaine prochaine, ce sera les derniers conseils avant ce marathon de Paris, ce Schneider Electric Marathon de Paris, qui aura lieu dimanche la semaine prochaine, le 13 avril. On ne vous lâche pas jusqu'au bout si vous avez des questions. L'adresse mail, le compte Instagram, n'hésitez pas. Et nous, on sera là, évidemment, pour vous donner tous les précieux conseils d'ici là. Bonne prépa à tous. Merci. Et quand vous courez, souriez. Ça va à respirer. Salut à tous.